Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. A été déposé dans les librairies voici quelques jours à peine. Un livre inhabituel publié chez Stock. Inhabituel parce que ce n'est pas un livre d'histoire de l'art et pas non plus un roman et pas tout à fait une enquête. Il s'appelle Gabriel. Pas de nom de famille derrière ce prénom, mais on découvre rapidement que ce livre rédigé à deux plumes par deux sœurs, Claire et Anne Berest, raconte une partie de la vie de leur arrière-grand-mère qu'elles n'ont pas connue. Cette arrière-grand-mère, nous la découvrons dans ce livre et c'est Gabriel Buffet Picabia, c'est-à-dire l'une des grands témoins et actrices de l'invention de l'art moderne. Elle a épousé le grand Francis Picabia, elle a été considérée par les plus grands inventeurs de la modernité comme l'un des leurs, et l'on croise dans ce livre ceux qu'elle a inspirés, accompagnés et parfois aimés. Picabia, bien sûr, mais aussi Marcel Duchamp, Apollinaire, Varèse, Jean Harpe, Stravinsky, Cravanne, Elsa Schiaparelli et bien sûr Picabia. Tous lui doivent un peu de leurs œuvres et nous pourrions ajouter d'autres noms tant son rôle exceptionnel d'inspiratrice et d'accompagnatrice a été central dans une histoire que nous aurions regretté sans ce livre de risquer d'oublier. Pour vous en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi deux personnes qui l'ont connue. Jean-Jacques Lebel. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Jean-Jacques Lebel, grand artiste, ami de Duchamp et Breton et de Gabriel Buffet Picabia, qui a fait une œuvre qui s'appelle « Mon cœur ne bat que pour Picabia ».
C'était un petit peu exagéré, mais enfin, presque uniquement pour lui.
Et vous êtes évidemment d'abord un grand artiste. Dans le cadre de votre activité artistique, vous avez traduit la Beat Generation dans les années 60, le premier. Vous avez fait le premier happening en Europe qui s'appelait l'enterrement de la chose à Venise en 1960. Et mille autres expositions de vous, des autres, des amis vivant à l'intérieur d'un rhizome auquel appartient aussi notre second invité, Bernard Marcadet. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous allez bien Bernard ?
Très très bien.
Vous êtes en train d'écrire un livre sur Picabia après avoir réussi un très très beau livre sur Duchamp qui est la référence absolue, un très très beau livre sur Magritte qui devient la référence absolue, et vous continuez avec Picabia, ce mauvais garçon.
Ouais, la trilogie des artistes importants pour moi du XXe siècle, ceux qui changent la donne, ceux à qui on doit beaucoup aujourd'hui.
C'est un bon choix, non, ces trois artistes? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques?
Absolument, oui.
Vous savez, Jean-Jacques Lebel, il y a une très jolie phrase de Picabia dans laquelle il qualifie Gabriel Buffet, qui a été sa femme, et il dit, et je pense en le disant, il pense aux autres artistes, il dit « Son esprit est une source au bord de la route, elle ne veut interdire à personne le plaisir d'y puiser ». Est-ce que ça veut dire que beaucoup ont puisé dans cet esprit singulier?
Absolument. C'était pas simplement une compagne, c'était une inspiratrice. Et d'une certaine façon, il se trouve que j'ai connu les trois épouses successives de Picabia. D'abord Gabrielle, Germaine Eberling et Olga Möller. De très très loin, c'était la plus brillante, la plus intelligente. Et d'une certaine façon, je ne sais pas si Bernard sera d'accord avec moi, je pense que elle était supérieure intellectuellement à Picabia. C'est-à-dire que elle lui a fait découvrir un tas de choses. D'abord, il paraît que elle lui aurait présenté Apollinaire, ce qui n'est pas peu de choses. La fameuse photo que nous connaissons de 1913, où ça a été pris dans une foire, on les voit sur un paquebot imaginaire dont la bouée est inscrite du mot « la France », c'est quand même assez marrant. Elle est coincée entre Apollinaire et Picabia, elle ne sourit pas, mais elle a servi de trait d'union entre ces deux grands personnages.
Qui étaient au fond toujours prêts à débattre, parce qu'ils avaient pas un accord absolu. Ils avaient un désaccord passionnant, je crois.
Entre Picabia et Apollinaire. Oui, il a fait un portrait d'Apollinaire. Il l'appelait l'irritable poète. C'est pas pour rien. Mais Gabriel m'a confirmé, et Duchamp aussi de son côté, qu'il passait des nuits à fumer de l'opium. Et ça, c'est très important. Picabia d'abord et Apollinaire ensuite avaient des amis qui pouvaient se payer de l'opium. Et c'est quelque chose que les historiens de l'art ont totalement négligé. Or, Picabia en parle dans ses poèmes et Gabriel elle-même trouvait à juste titre qu'il y avait une sorte de basculement dans un autre monde. Je parle des années 1908, 1909, 1910, 1913, jusqu'à ce que Apollinaire publie son fameux livre « Méditation esthétique », qui a d'ailleurs été payé, sponsorisé par Picabia. Et ils passaient des nuits ensemble et à discuter. Et dans les poèmes de Picabia, on trouve des traces de tout ça. Et dans les textes de Gabriel, je vous ai amené un texte d'elle. Je voudrais vous en citer quelques mots.
Avec joie.
Parce que vous allez voir qu'il est question de ça. C'est un texte écrit à Zurich, dans 391, évidemment, en 1919.
391, c'est la revue fondée par Picabia et Gabriel Buffet.
La plus grande revue d'Ada, on est bien d'accord, Nomade, Barcelone, Zurich, New York, Paris. Elle a été la cheville ouvrière, en effet, de 391. Elle y a signé beaucoup de textes, dont celui-ci, donc, de 19. Un paragraphe. La simplification du bonheur des hommes tourne comme une table et l'articulation des fantômes vit de charité publique. Avançons encore. Affirmation, sinécure, hydroscopique. Des poètes fermentés, rencontrés en chemin, carnassiers, moralisateurs, asphyxiés, hypnotisme, hyperbole, hymne hygiénique. Et vous êtes seul au monde, ce qui équivaut au sentiment d'un défaut d'équilibre dans l'espace où l'air rarifié de la liberté, du vide, s'est rempli par aucun corps. Car vous ne savez rien faire tout seul, pas même l'amour.
Très beau. Jean-Jacques
voilà
Hamel,
ce qu'elle pensait,
merci
Gabriel.
Merci pour ce beau texte, c'est un beau cadeau pour nous tous. Bernard Marcadet,
je pense que
la pensée ultra rapide de Jean-Jacques nous a déjà amené en 1913. Revenons un peu en arrière. Vous qui connaissez aussi l'histoire, Gabrielle Buffet-Picabia, elle commence musicienne.
Oui.
Et
musicologue.
Musicologue,
oui,
et musicienne.
Mais aussi,
mais aussi
compositrice, je ne sais pas si on le dit.
Oui.
Et on ne sait rien, on n'a pas une de ses compositions. Je pense qu'elle a tout brûlé. Et ça c'est assez impressionnant, parce que normalement, à la fin des études de la Scuola Cantorum, on fait un travail.
Oui, parce que
travail.
Vous parlez de la Scuola Cantorum, elle voilà. Était la première femme à avoir été acceptée, en dépit de sa famille, etc., par le soutien de Vincent d'Indy,
absolument.
À la Scuola Cantorum.
Qui était professeur.
La Scuola Cantorum, c'était quoi? C'était anticonventionnel?
On pourrait dire que c'est quelque chose qui était parallèle, effectivement, au conservatoire, mais qui était beaucoup plus moderniste. Voilà. Et ça, c'est le plus important, et c'est là où Vincent d'Indy, c'est lui qui développait vraiment des idées novatrices en matière de musique. Et ensuite, elle est allée à Berlin, quelques années après. Là, elle a rencontré un certain Busoni, qui est Ferruccio Busoni, qui est un très grand pianiste. On disait que c'était c'était le plus grand pianiste après Liszt. Voilà. Et il donnait aussi des cours de composition.
Et qui avait, semble-t-il, une théorie ultra-contemporaine, voulant élargir le champ de l'instrumentation.
Et c'est pour ça que Varèse était là aussi. Varèse, qui était aussi à la Scola, Edgar Varèse, donc qui était aussi à la Scola Cantorum, mais pas en même temps que Gabriel Buffet, puisqu'il était, je crois, plus jeune que Gabriel. Mais en même temps, ils se sont retrouvés donc à Berlin. Et là, évidemment, c'est assez magnifique, parce que là, vraiment, Gabriel Buffet s'est trouvé vraiment en prise avec la modernité, où il s'agissait plus de parler de musique, mais de son intensité, ils ont changé le langage. Et Gabriel, ce qui est extraordinaire, c'est ce rapport extraordinaire qu'elle a au son, qui n'est plus de la musique et qui est une intensité. Quelle modernité, déjà, de penser de cette manière-là.
Je propose d'entendre quelques instants un extrait de texte qui vient de ce livre Gabriel, écrit par Anne-Claire Berest, sur la rencontre avec Varèse.
Aller voir marcher dans les allées bordées de statues victorieuses, on pourrait croire à des amants. Ce sont deux révolutionnaires qui sont en train de remettre en question tous les principes artistiques. Ils discutent de la section 19 des problèmes d'Aristote. Edgar explique à Gabriel les découvertes du scientifique Helmholtz sur la perception des sons et des couleurs. Il lui fait aussi découvrir les écrits de Léonard de Vinci, tandis que Gabriel lui traduit les articles de journaux concernant les découvertes de Max Planck sur la naissance de la théorie des quantas. Elle lui traduit « Entwurf einer neuen Ästhetiktonkunst », l'ouvrage que leur professeur vient de faire paraître à Trieste. En disséquant le livre, ils cherchent à inventer un nouvel univers. Et grâce à Busoni, ils envisagent d'affranchir la musique du système tempéré, de la délivrer des limitations imposées par les instruments en usage et par toutes ces années de mauvaises habitudes qu'on appelle de façon erronée la tradition. Au lieu de parler de musique, ils parlent de son organisé. Au lieu de s'affirmer musicien, ils préfèrent dire qu'ils travaillent les rythmes, les fréquences et les intensités. Leur grande préoccupation est de trouver de nouveaux instruments permettant des sonorités autres pour dépasser les 7 notes de la gamme qu'offre le piano. De là, dit Gabriel, il y a eu une filière de découverte dans la musique et Varèse a été amené à composer plus tard sa musique. De là sont nés le pop art et la musique actuelle, délivrés de toute la technique ancienne, de toute la grammaire, de toute une syntaxe qu'il fallait alors respecter.
Sur France Culture, nous venons d'écouter cette rencontre entre Varèse et Gabriel Buffet-Picabia, le sujet de notre émission, où j'ai la chance d'avoir Jean-Jacques Lebel et Bernard Marcadet, deux connaisseurs et parfois témoins, dans votre cas Jean-Jacques, de cette aventure. C'est extraordinaire quand on entend la rencontre de cette femme née en 1881 avec Varèse et de voir à quel point tout de suite elle est une source et une intellectuelle brillante qui va irriguer par sa connaissance les autres artistes. Est-ce que la musique aura de l'importance dans le lien entre Picabia et Gabriel Buffet ?
Non seulement la musique, mais l'horizon intellectuel surtout. Il ne faut pas oublier qu'elle lisait et traduisait de l'allemand, elle lisait Nietzsche dans le texte, ce qui était pour Picabia absolument fondamental, et pour Duchamp aussi d'ailleurs.
Oui, parce que Picabia ne lisait pas beaucoup Max Stirner, Nietzsche, c'est tout, et quelques romans policiers.
C'est déjà énorme.
C'est déjà pas mal.
Par rapport à certains artistes, entre guillemets, d'aujourd'hui, qui lisent que 3 lignes et s'endorment, c'est déjà gigantesque. C'est fondamental quand même, Stirner et Nietzsche. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre de Carole Bulbès qui s'appelle Picabia avec Nietzsche, que je recommande absolument aux lecteurs et aux auditeurs. Nietzsche est vraiment la pierre angulaire de la vision de Picabia. Mais pour en revenir à la musique, il ne faut pas oublier que tout ça, ça se passe en 1908-1909. Ils se sont mariés en 1909, la même année où il a peint Caoutchouc, dont on a dit plus ou moins de façon justifiée que c'était le premier.
C'est très important ce que vous dites, parce
peinture.
Que Caoutchouc, 1909, et c'est une peinture musicale, c'est-à-dire qui échappe
absolument
à la représentation du réel.
Non figurative, disons. Ouais. Il ne faut pas oublier que ça vient quand même 2 ans après le manifeste futuriste, publié à Paris, dans le Figaro, par Marinetti, et où il est question aussi de bruitisme. C'est là où je voulais en venir.
Que le passage... Vous êtes sûr de la date? C'est bien
1907.
Oui. 1907, le manifeste futuriste.
Absolument.
Oui, non, je voulais vérifier.
Et en français.
Parfois, je vis dans le doute.
Ah bon? Vous n'êtes pas le seul, cher ami. Comment vous dire? Le bruitisme, c'est l'introduction dans la pensée moderne post-wagnérienne de l'œuvre d'art totale qui abolit longtemps avant John Cage les frontières entre l'art et la vie, c'est-à-dire entre la musique avec un grand M et le bruit, Il y a un très beau texte, d'ailleurs, de Paul Valéry en 1919 qui parle des bruits de la ville comme musique.
Donc, c'est vrai qu'on voit que ça va amener John Cage, ça va.
Mais bien sûr. Ouais. Donc, Varèse, c'est très juste, est arrivé là-dedans, très savant, Varèse, et en tant que musicologue et que compositrice, elle aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une tension intellectuelle et même politique très forte entre le futurisme d'une part et ce que va advenir de Dada par la suite. Et elle est en effet au cœur de tout ça, Gabrielle. Elle est au cœur de tout ça parce qu'elle a un horizon théorique et humain énorme, contrairement aux artistes qui pensent à faire carrière et regardent juste le bout de leur nez. Elle voyait très loin et beaucoup plus loin que les autres. Elle a certainement impulsé un certain nombre de sursauts et de bons en avant. Je crois qu'il faut le dire. Elle fait partie de ces femmes qui ont été très injustement effacées de l'histoire de l'art, de l'histoire de la pensée. Elle, c'est une grande bonne femme. Et en effet, elle est morte à 104 ans. Quand je l'ai connue dans les années 50, elle vivait dans le plus grand dénuement. Elle était terriblement seule, oubliée, sauf de Duchamp et de Breton, à qui, d'ailleurs, il faut quand même le dire, parce que elle tend la première épouse depuis Gabia, on aurait pu penser qu'elle s'en est détachée, pas du tout. Elle a toute sa vie témoigné d'une fidélité exemplaire à Picabia, et c'est elle qui a conservé dans son atelier rue Washington un certain nombre de chefs-d'œuvre de Picabia, dont Uni, le célèbre chef-d'œuvre Uni,
qui se trouve au Centre Pompidou maintenant,
qu'on a vu récemment au MoMA et à Zurich, qui était resté enroulé dans un coin de l'atelier, et quand après la guerre, après la libération, il s'est agi d'essayer de ressusciter le tableau, ce chef-d'œuvre. Elle a fait appel à qui? Et à Duchamp et à Breton. Elle savait pas à qui s'adresser. Ils sont allés ensemble chez Lefebvre Foinet pour acheter un châssis. Et Breton et Duchamp, eux-mêmes, de leurs propres mains, ont redressé le tableau et l'ont fait reconnaître. Et Picabia lui doit énormément.
Alors on va parler très longuement de la relation Duchamp-Gabriel Buffet-Picabia, parce que c'est l'autre sommet du triangle, on peut dire ça, comme oui. Ça, Bernard Marcadet,
oui.
Pardon.
Oui. Oui, parce que ce qui est magnifique, dans cette, il y a vraiment un trio quoi, au départ, c'est vraiment un trio.
Un trio à quatre, parce qu'il y a Apollinaire aussi.
Absolument.
Oui, mais parfois ça, parce qu'il y avait Henri-Pierre oui. Rocher, et parfois à six, parce qu'il y en avait d'autres.
Oui, mais enfin le trio est trio important, c'est quand même Duchamp, oui, Gabriel oui. Au centre, et Duchamp et Picabia, qui sont, Duchamp doit tout, à la fois à Gabriel et à Francis Picabia. Ça parce que, et ça Gabriel le dit très bien.
Picabia le disait aussi, d'ailleurs.
Bien sûr. Duchamp était un homme un peu coincé avec ses frères à Puteau, il était vraiment très provincial, très dans une relation très étriquée à la vie. Et Gabriel l'a vraiment, elle le dit elle-même dans certains entretiens, déniaisé. Alors ça veut tout dire, on ne sait pas très bien.
On sait.
Et Picabia l'a complètement dessalé, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, il fumait de l'opium, il sortait, il adorait les fêtes. Alors, et donc, c'est pas que Duchamp fumait vraiment de l'opium, mais ceci dit, en tout cas, il dit que Picabia le faisait. Et je pense que Jean-Jacques a totalement raison de mettre cette chose très importante de la question de la drogue. La question de la drogue chez Picabia.
Comme expérimentation
par rapport à sa mentale. Et à sa pensée.
Et à sa pensée.
Et celle de Gabriel. La pensée de Gabriel aussi.
Mais ça a choqué tout de suite Duchamp. Enfin, ça l'a pas choqué. Ça lui a ouvert, en réalité. Ça l'a illuminé. Ça lui a ouvert l'esprit. Et c'est grâce vraiment. C'est vrai, véritablement, l'importance de ce couple, Gabriel Buffet, Francis Picabia, est décisive pour vraiment la sortie de Marcel. Mais bien sûr, il y a une histoire d'amour qui reste.
Alors, on va y revenir, si vous voulez bien. Mais j'aimerais bien entendre la voix de Gabriel Buffet. Nous sommes en 1977, au micro de Michel Giroux. Elle a 96 ans. Elle raconte.
J'ai rencontré Picabia en 1908, alors que moi-même, j'étais en plein travaux pour la musique, dans le même ordre d'idées. Que c'était la même recherche de quelque chose qui supprime tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant et qui soit en rapport avec le nouvel esprit ce nouvel esprit créé dans le monde par les révélations scientifiques. C'est bien ce qu'il faut dire. Il est certain que ce sont quand même certains hommes, certains esprits qui ont dirigé les choses, qui en ont profité. Mais c'est quand même le bouleversement général du monde qui est à la base de tout. Et on ne parle jamais que du nom des artistes, et ce n'est pas suffisant. Et c'est ça qui m'a passionnée, n'est-ce pas ? C'était justement, au fond, j'étais, sans le savoir, j'étais très avant-garde, c'est-à-dire que j'étais très impressionnée moi-même par tout ce qui se passait dans le monde, bien que n'ayant aucune formation scientifique et mathématique, je pouvais ressentir tout ce qui se passait, et je ressentais aussi cette nécessité pour une expression artistique, si je voulais exprimer un nouvel état d'esprit, le nouvel état d'esprit créé, il fallait changer aussi les expressions.
Qu'est-ce que vous cherchiez ?
Eh bien, justement, je cherchais à sortir de l'édifice musical, cet édifice qui est quand même extraordinaire, et qui a été formé peu à peu par le développement des hommes, par le désir d'élargir le champ de leur recherche et d'élargir la matière même de la musique. Parce que quand même, jusqu'alors, la musique était bornée à son plus simple élément, c'est-à-dire la gamme, et les instruments musicaux étaient construits sur ce même espace. Donc, ce qu'il fallait, c'était commencer par changer les instruments.
Il fallait commencer par changer les instruments, c'est ce qui se passe dans les arts plastiques, peut-être aussi avec cette collaboration, en tout cas cette rencontre avec la musique, effectivement.
Avec la mécanique.
Avec la mécanique, oui. Vous avez raison, Jacques Lebel, parce que la mécanique, qu'est-ce que ça va inspirer les artistes à ce moment-là ?
Absolument, mais d'abord, Picabia est un grand maniaque des voitures. Il écoutait le moteur des voitures, elle aussi. Et la matière de la musique, la matière de la pensée picturale ou de la pensée musicale, a en effet changé dans ces années-là. Pas simplement avec le futurisme, mais avec tout ce qui va s'en suivre. Gabriel Buffet appliquait donc aux arts plastiques une sorte d'enquête philosophique qui met en jeu et en question les fondements même de l'esthétique dominante. Et c'est ça qui a amené ensuite, c'est en cela qu'elle a été la chevalier ouvrière, non seulement de 391, mais du dadaïsme en général. Voilà, cette femme a vraiment contribué quelque chose d'absolument fondamental à la pensée de son époque. D'ailleurs, elle est présente tout le temps dans la vie de Picabia, longtemps après leur divorce, ce qui prouve que c'était une femme libre. Elle s'en fichait complètement des
Elle a supporté très largement les amis de Picabia.
Mais bien sûr, ouais. et elle est une des signataires de ce chef-d'œuvre de Picabia qui est l'œil cacodilate, hein, qui est aussi au Centre Pompidou. C'est ce tableau signé, contresigné d'au moins 40 personnages, des plus grands personnages de l'époque. Et elle a signé de façon très visible et très présente dans ce tableau.
C'est un mot étrange, cacodilate. Hein. C'était, je crois, une
maladie de l'œil.
Un remède.
Un remède, oui.
Un remède à la dépression dans laquelle Picabia tombait souvent.
C'est à la fois les deux, c'est-à-dire c'est à la fois, ça sert à soigner le zone ophtalmique qu'il avait, mais c'est aussi quelque chose contre la dépression. C'est très important la question des produits chez Jean-Jacques a déjà commencé là-dessus. Non, que ça soit la drogue, que ça soit les médicaments, c'était vraiment un grand usager de ces choses-là. Et c'est très important pour comprendre sa peinture, cet usage à la pharmaceutique, la pharmacie de Picabia. Moi, je pense que c'est quelque chose on parlait de la pharmacie de Platon, Derrida parle de la pharmacie. Moi, je pense qu'il faut parler de la pharmacie de Picabia, qui est décisive parce que c'est à la fois la drogue qui est à la fois un remède et un poison.
D'ailleurs,
et cette ambiguïté-là est décisive pour comprendre, je pense, la question de la peinture de Picabia, le rapport de Picabia à l'art, qui est à la fois d'empoisonner la peinture et en même temps d'en être le docteur, comme il le dit lui-même dans un de ses poèmes. Ce qui est quand même un paradoxe magnifique et qui est le paradoxe, pour moi, vraiment de Picabia.
Absolument. Et Gabriel parle de ça. Gabriel, il y a un tout petit texte d'elle dans...
Allez-y, Jean-Jacques, je vous en prie.
De 1921, où elle s'adresse, elle envoie une lettre à Picabia. Mon cher Francis, tu es guéri, justement, du zona ophtalmique. Tu es guéri. Est-ce pour longtemps? Tel que je te connais, tes maladies me semblent les meilleures de tes distractions et, après tout, valent aussi bien que les piqûres d'oxygène, le jazz band, le whisky soda, le flamenca qui n'arrive pas à rajeunir les malheureux élastiques distendus de nos marionnettes si parisiennes. L'art n'est qu'un bouillon de culture des vanités snobiques. C'est Gabriel qui parle des vanités snobiques. Quant à l'amour parisien, il n'est plus un sujet aussi défendu pour être drôle. Pour vivre à Paris, je conseillerais l'abstinence, mais aussi, avant tout, éviter les enfants et l'esprit de famille. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être l'arrière-petite-fille pour savoir parler de quelqu'un comme d'aussi génial
mais
qu'elle.
En l'occurrence, elles ne l'ont pas. C'était un trou pour Anne et Claire Béret. C'était un trou l'affaire Gabriel.
Un trou noir.
Donc d'une certaine jamais on en parlait. Et donc ce qui est je trouve passionnant. Ce qui est passionnant dans leur livre, c'est justement de faire de ce trou quelque chose.
Mais il faut sortir des névroses familiales. C'est ça qu'elle dit.
Alors ça vous rappelle un ami à vous, un grand poète. Jean-Jacques Lebel, « Just say no to family values
oui, ».
Le fameux « judge your no ».
Oui, qui est toujours présent partout.
Toujours présent parmi
nous. Non, mais sans blague, c'est très important. Elle qui était la mère de ses deux enfants,
Gabriel et qui disait que Picabia avait beaucoup de mal à vivre avec ses enfants et à s'en occuper, et même à y penser.
Ben oui.
Mais Gabriel,
c'est ça, les artistes.
Elle aussi avait du mal. Hein. C'est ce que d'ailleurs leur arrière-petite-fille dit, en disant que finalement, personne s'est occupé. Enfin, je veux dire, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants.
Mais c'était
pas d'une certaine manière révolutionnaire.
C'était pas la mère Teresa, c'était Francis Picabia et Gabriel Buffet. C'est pas pareil.
Alors, un petit mot sur la rencontre entre Duchamp et Picabia. Je voudrais y revenir. Écoutons un extrait de notre livre Gabriel.
La rencontre avec Francis Picabia va faire des étincelles. Ils partagent le goût des icônes que l'on brise, de l'art de l'ironie et de l'ironie de l'art, des blagues en toutes circonstances et de la mort de Dieu. Certes, ils ont 10 ans d'écart et tout les sépare. L'un débarque d'une famille douce et aimante de notables de province, l'autre descend de l'aristocratie fortunée et asphyxiée qui méprise sa propre fortune. Le jeune Duchamp est secret, délicat et empreint d'une modestie feutrée. Picabia est bruyant, impudique, flambeur et flamboyant. Mais ils sont tous deux aimants. Et lorsque Gabriel présentera Marcel à son mari, celui-ci se retrouvera face à un magnifique, un sublime, un inespéré double inversé. Claire et Anne Berest, Gabriel, 2017.
Nous venions d'entendre donc cette rencontre entre Gabriel Buffet, Marcel Duchamp et évidemment Picabia. Écoutons ce que Gabriel Buffet, dans un autre enregistrement, dit de Duchamp. À ce moment-là, celui-ci avait 22 ans.
Il avait 22 ans, il avait fait son service militaire et il sortait de sa province, il était tout à fait sous la coupe de ses frères. Et alors, il y a eu une détente immédiate avec Picabia. Alors, Picabia lui a fait connaître toute la vie parisienne sous toutes ses formes, ce qui s'est fait très facilement, malgré une pudibonderie extraordinaire. Tout de suite, j'ai compris que Duchamp était beaucoup plus préoccupé par le changement d'esprit du monde que par la peinture. Il voulait faire rentrer la peinture là-dedans. Mais au fond, je lui ai entendu dire toujours, mais moi je n'aime pas la peinture. Et il était un très bon peintre. Il avait aussi une technique facile, mais il travaillait avec beaucoup de peine. Autant Picabia crachait son travail, ça sortait tout seul, ça prenait n'importe quelle forme, et si ça ne lui plaisait pas, on déchirait, on brûlait, on découpait la toile, et ce qu'il a pu gâcher de toile comme cela, c'est invraisemblable. Et de dessins, je pense à tous les dessins que j'ai déchirés moi-même pour ne pas avoir des accumulations, et c'était sans cesse.
Jean-Jacques Lebel, nous sommes avec vous pour parler de Gabriel dans cette émission de France Culture et accompagné par Bernard Marcadet, un de nos grands historiens, spécialistes et aujourd'hui en train d'écrire un livre sur Picabia. Jean-Jacques Lebel, on entendait à l'instant Gabriel Buffet, cette extraordinaire inspiratrice de la modernité. Et Gabriel Buffet, vous le rappeliez tout à l'heure, a présenté, ou en tout cas était témoin de la rencontre, mais je crois même présenté, Apollinaire, à Picabia. Ils se sont apportés beaucoup et il y avait des désaccords. Il y avait, semble-t-il, une assez faible présence de Picabia dans les textes d'Apollinaire. C'est curieux, en dépit de cette fraternité, et je dis ce mot aussi bien pour Gabriel que pour Picabia.
C'est-à-dire que Apollinaire voulait dominer. Hein, et d'une certaine façon, il dominait tout le monde. Mais Picabia ne se laissait pas faire. En gros, c'est ça. Et Picabia le provoquait tout le temps. Dans ce fameux livre de 1913, Méditation esthétique, Apollinaire le traite un petit peu mal. Il le traite d'orphique.
C'est ça.
N'est-ce pas? Picabia n'était pas content.
C'est le mouvement qu'Apollinaire essaye de créer à ce moment-là, mais il n'y arrive pas très bien, avec Delaunay,
Ça n'a pas de sens. Il essaye de, comme tous les théoriciens, de devenir chef d'école, ce qui sera beaucoup reproché à Breton par la suite. Tandis que pour Duchamp, Apollinaire se montre tout à fait prophétique en disant que l'œuvre de Marcel Duchamp va même sur le plan social avoir un avenir
populaire
très important. Est tout à fait juste. Ben oui. De dire ça en 1913, fallait le faire quand même. Avec Picabia, ça marchait pas très bien. Alors, est-ce que c'est des histoires d'amour, histoires triangulaires ou
il y a l'affaire Picasso. Il y a Picasso. C'est que
oui, parce qu'il y a une grande rivalité
Picabia-Picasso. Totalement obsédé par Picasso.
Bernard Marcadet.
Oui, était totalement Apollinaire était totalement sous l'influence de Picasso.
Affective.
Et dans une crise affective, parce qu'il y avait eu un grand problème de trahison, affectuée. Oui,
qui est bien raconté dans le livre d'ailleurs. Et on voit bien qu'en permanence, il y a ce jeu. Et Picabia, bien sûr, l'artiste qu'il regardait, c'était en réalité Picasso. C'était parce que Duchamp Picabia, ça fait un couple. Mais c'est un vrai couple qui invente, on pourrait dire, l'art d'aujourd'hui.
Et peut-être plus fort que Braque Picasso.
Exactement. Voilà, c'est un couple, en tout cas, dont il faudra parler. Et je pense qu'il va y avoir d'ailleurs une exposition sur cette affaire Picasso. Picabia, parce que ça c'est un vrai bras de fer
entre deux Espagnols.
Voilà. Et donc l'affaire Apollinaire, elle est reliée à tout ça. Et d'une certaine manière, quand Gabriel Buffet et Francis Picabia vont à New York,
donc Picabia, ils y vont en 1900.
Oui, ben pour l'Armorichon en 1913,
voilà.
Et ils sont retournés.
Ils font un déjeuner chez Prunier et Apollinaire n'est pas là. Il y a Marcel Duchamp, il y a tous les amis, etc. Il n'y a pas Apollinaire, parce qu'Apollinaire avait choisi, effectivement, Picasso, ce déjeuner-là, d'une certaine manière. Et il y a quelque chose dans la méfiance, d'une certaine manière, qu'avait Apollinaire pour Picasso. Par contre, Apollinaire et Gabriel Buffet, c'était une très jolie histoire. Une très belle histoire, qui n'était pas sexuelle, mais qui était une véritable amitié. Et Dieu, est-ce qu'on n'aimait pas aussi...
Presque une fraternité, absolument. Parce qu'ils étaient vraiment frères et sœurs.
Vraiment.
Et est-ce que vous savez, vous le savez, mais est-ce que nos éditeurs savent, par exemple, que Zone, ce poème fondamental,
Napoléon,
eh bien, il a été fait dans la maison de Gabriel Buffet, dans le Jura.
La fameuse maison.
À la fin, tu es las de ces mondes anciens, bergères, aux tours Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Extraordinaire poème qui invente la modernité. Absolument. C'est Gabriel Buffet et Apollinaire, côte à côte.
Absolument. Non, c'est très décisif, cette affaire de, le rapport de Gabriel et, d'Apollinaire. Et, le grand débat entre Picabia et Apollinaire, il est aussi sur la question de la participation à la guerre. Apollinaire dit que la guerre est jolie, il va à la guerre, il en revient d'ailleurs complètement massacré, il va finalement mourir des effets, finalement, de sa blessure horrible, même si il est mort de la grippe, mais en réalité, quand même, il était très, très affaibli.
Il est revenu anti-militariste, quand même. Il est parti foudre de guerre et revenu anti-militariste.
Mais ça, en tout cas, Gabriel et Francis n'étaient pas vraiment très, très d'accord, mais Gabriel, pardonner davantage à Apollinaire. Oui. Apo, il l'appelait, je crois, Apo.
Oui. Picabia a dit une chose très belle, il a dit « J'aime les pédérastes parce qu'ils ne font pas de soldats ». Malheureusement, il n'était pas au courant que longtemps après sa mort, les pédérastes, nos amis homo, peuvent se marier et adopter des enfants et donc faire des soldats.
On n'en était pas encore là.
Vous voyez ce que je veux dire.
Absolument.
Mais ça se passait Lebel, pas de façon
si linéaire.
Je voudrais
que vous me disiez ce qui se passe parce qu'on sait bien qu'il y a cette énorme exposition, l'Armorie, qui va changer, inventer l'art moderne, donc aux États-Unis. Hein, c'est en 1913, plus de 1000 tableaux et évidemment les grands scandales, en particulier le nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Mais ensuite, Picabia reste ou revient plutôt aux États-Unis, n'en part pas et il va découvrir, il va élargir son champ scopique, son champ mental. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera avec Gabriel d'ailleurs.
Il le dit lui-même, c'est la rencontre passionnelle avec la mécanique, avec l'énormité du tissu urbain, avec les buildings, avec la jeune fille américaine, la bougie d'allumage, n'est-ce pas?
Oui, ce sera
américaine.
Un moment de luxure,
tout ce qu'il aimait, mécanique, n'est-ce pas? Il a trouvé, sur le plan social, une espèce de panorama de ses fantasmes concernant la mécanique de l'amour. N'est-ce pas? La bougie d'allumage, jeune fille américaine, ça en dit long sur la façon dont il objectifie, au sens féministe contemporain du mot, les rapports sexuels et les rapports amoureux. Mais il était prophétique en cela, n'est-ce pas? Et donc, mais là-bas.
Et il sera avec Gabriel.
Au moment
avec
de l'Armorie Show, c'est Picabia qui fait scandale. Le tableau de Duchamp a fait scandale, mais lui, sa présence a fait scandale. Il suffit de regarder la presse de l'époque, les énormes interviews qu'il a données.
Bernard Marcadet voulait dire quelque chose là-dessus.
Ce que je veux dire là-dessus, c'est que Gabriel est très décisif parce que Picabia ne parle pas anglais.
Oui.
Et donc, c'est Gabriel qui finalement fait la traduction.
Non seulement de l'allemand, mais de l'anglais.
Voilà, exactement. Et ça, c'est très, très, très important parce que c'est elle qui. Et ça, c'est tout le.
Qui va
tout...
interpréter l'œuvre.
Ah, exactement.
Donner les clés.
Mais exactement. Je crois que ça, c'est cette manière qu'elle a eue de traduire la pensée de Picabia en termes. On pourrait pas dire théorique, en termes de pensée, je dirais.
Articulée.
Voilà, articulée. Oui. Et ça, je trouve, c'est l'apport. L'apport est décisif de Gabriel. Quant à l'œuvre de Francis Picabia, et de même, bien sûr, celle de Marcel Duchamp, mais
en l'occurrence... Et Picabia rentre donc à ce moment-là chez Stiglitz, à 291, qui va donner le nom de la revue un peu plus tard. Et sur la revue, je voudrais vous demander, Bernard Marcadet, la revue, c'est une revue pré-dadaïste ou dadaïste? Comment va se faire la rencontre entre Dada et Picabia et Gabriel Buffet?
Ils vont en Suisse comment? Elle est proto-dadaïste, c'est-à-dire que
elle fabrique le dadaïsme.
Voilà. Elle est proto-dadaïste, c'est-à-dire que Dada, ça se prépare à la fois dans plusieurs endroits de l'Europe. Ça se passe à Zurich,
à
Barcelone et à New York.
Et ensuite à Paris.
Et ensuite à Paris. Et ça, c'est très...
Dans le monde entier.
Et donc ça,
Parce qu'eux vont rencontrer Dada qu'en 18.
Oui, à Tristan Tzara. Tristan Tzara, je crois
que... invité à Paris par Picabia.
Oui. Par Picabia, bien sûr.
Et ils vont adorer le mot Dada et effectivement se rendre compte que les prémices de Dada, ils y étaient au cœur. Et donc, ils vont apparaître évidemment.
C'est-à-dire qu'ils étaient dadaïstes avant le mot Dada.
Alors, je voudrais insister maintenant qu'on a évoqué un petit peu ce parcours, et Dieu sait qu'il y a d'autres choses à se dire, parce qu'on n'a pas parlé de Stravinsky en 1913, de la lutte extraordinaire au moment des batailles bataille avec Nijinsky, le fait qu'elle soit dans la bataille en 1913, la nuit même où elle va accoucher, et pourtant, jusqu'à son accouchement, dans la salle du Théâtre des Champs-Élysées, elle se bagarre, à l'avant-garde, comme toujours. Mais maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus doux, on va parler un peu d'amour, et donc, je voudrais entendre quelques phrases...
Pas trop, quand même.
Non, dans ce fameux livre Gabriel, L'amour de Duchamp et Gabriel.
À Aïs, Gabi reçoit la lettre de Marcel Duchamp. Une lettre d'amour, mais d'un amour qu'il sait impossible. Qu'est-ce qui lui prend, songe-t-elle? Leur trio s'emboîtait si parfaitement. Un triangle si lisse, sans défaut. Elle n'avait pas prévu. Quoi? Ce déchaînement. Et elle est si forte, si imperturbable. Un roc, une montagne. Elle est, oui, fissurée par ce retournement. Le transfert qu'effectue Duchamp est pour le moins surprenant. Pour symboliser sa passion avec Gabriel, Marcel choisit des héros aux amours incestueuses. Dans le roman, Jérôme et Alicia sont cousins. Il est vrai que Marcel et Francis sont comme des frères ou des amants. Duchamp dira en 1966... Une autre caractéristique du siècle est que les artistes vont par paires. Picasso, Braque, Delaunay, Léger, de même que Picabia, Duchamp. C'est un curieux mariage, une sorte de pédérastie artistique. Gabriel est cette sœur et cette épouse d'un frère amant, les deux époux ayant eux-mêmes une ambiguïté fraternelle, on s'y perd. Elle a 6 ans de plus que Marcel Duchamp. À l'époque, cela compte. Il est très jeune, perçu comme un éternel célibataire, un homme sans attache sentimentale. Elle est une figure de femme mûre, une figure d'épouse et une mère. Son corps est celui d'une femme qui a déjà vaincu 2 accouchements. Duchamp décide d'aimer un fantasme démultiplié. Une femme totale. Une incarnation de tous les possibles et de tous les interdits. Une femme englobante, supérieure, que l'on pourrait décomposer en une multitude de figures évocatrices, comme son nu descendant l'escalier.
Nous entendions un extrait de Gabriel, vous êtes sur France Culture, nous parlons de Gabriel Buffet-Picabia avec Bernard Marcadet et Jean-Jacques Lebel. Jean-Jacques Lebel, vous vouliez dire une phrase à propos de ce que nous venons d'entendre peut-être?
Oui, en hommage à Gabriel, compositrice et musicologue, je crois qu'il faut rappeler le mot de Duchamp, le sacre du printemps, la crasse du tympan.
Vous pourriez, à propos de cette jolie allusion, aussi rappeler que l'erratum musical de Marcel Duchamp a été fait en hommage et avec Gabriel Buffet-Picabia.
C'est très important.
Un moment très important, l'invention du hasard à l'intérieur de la composition musicale et
Cage avant la lettre.
Oui, et qui devait être répété 3 fois parce que ce thème du triangle était si important. Pourquoi, Bernard Marcadet?
Le triangle, oui. Le trio, Henri-Pierre Rocher a fait, Jules et Jim, hein. L'été aussi faisait partie de la bande, Henri-Pierre Rocher. On peut pas d'ailleurs comprendre tout ça sans tous ces personnages qui... Et je trouve que dans le livre d'Anne et Claire Berès, il y a quelque chose comme Victor. Vous savez, c'est le roman inachevé d'Henri-Pierre Rocher qui devait être vraiment un livre dédié à Marcel Duchamp. Et je trouve que voilà, je trouve qu'il y a une sorte de relation dans ce livre-là, j'ai trouvé avec cet esprit d'Henri-Pierre Rocher. Mais pour revenir, je trouve à la relation très forte entre Gabriel et Marcel, c'est vraiment Marcel Duchamp, c'est véritablement un amour impossible qui sera d'ailleurs rendu possible après quand Gabriel ne sera plus la mariée, donc la femme de Francis Picabia, ils pourront à ce moment-là faire l'amour. C'est-à-dire au fond les deux registres du grand vers.
Il y a eu quelques épisodes, par exemple la fameuse rencontre à Étival dans la gare dans le Jura.
Frôlement, amour platonique, amour troubadouresque, je dirais, amour impossible, amour. Là, c'est vraiment
du
la phase.
700 kilomètres de changement de train pour arriver à rejoindre.
Et passer une nuit, passer une nuit avec Gabriel dans une
poésie en fait,
dans une gare.
Troubadour. C'est ce que
vraiment c'est troubadour. C'est-à-dire c'est l'amour qui ne se réalise pas charnellement, ce qui est le fondement même du grand vers, puisque les célibataires et les mariés, le registre des célibataires sont séparés, n'atteignent pas la jouissance de la mariée, n'est pas liée au contact avec les célibataires. Et donc ça, c'est la mariée, c'est vraiment Gabriel, c'est vraiment
la
Gabriel.
La mariée du grand vers, c'est Gabriel.
Ah bien sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il offre à Picabia?
Une figure. Oui.
Qu'est-ce qu'il offre à Picabia quand il revient d'Allemagne? Marcel Duchamp,
oui, il offre
le tableau La Mariée. Pas le grand vers, mais la mariée qui est tableau qui a préfiguré effectivement la construction du grand vers.
Tout et ça dans les années, Jean-Jacques Lebel, tout ça se fait en toute connaissance de cause des uns et des autres.
Absolument.
L'amour de Marcel pour Gabriel
mais
est connu de Picabia.
Bien sûr. Et bien sûr, il était tout à fait pour, parce que lui, de son côté, je n'ai pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans les années 50, ils se sont retrouvés, après la mort de Picabia, dans l'association pour l'étude du mouvement Dada, dont la cheville ouvrière était Gabriel et Marcel. N'est-ce pas? Ça a continué toute leur vie, cette histoire.
Et donc, il y a eu, dans ce lien entre Gabriel et Marcel, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu aussi un intérêt qui semble évident de la part de Gabriel pour les ready-made. Et j'aimerais bien qu'on l'entende à ce sujet-là. Écoutons, elle a 96 ans, Gabriel Buffet Picabia.
Je dois dire que sans le vouloir, certainement tout à fait sans le vouloir, j'ai eu une certaine influence sur le développement de ces esprits étonnants. Chacun de leur côté, étonnant. Le ready-made, moi je me disais toujours, mais pourquoi c'est pas la peine de copier un objet, il existe, pourquoi est-ce qu'on le copie? C'est cette histoire de copier que je trouvais absurde en elle-même. La peinture étant dépossédée de sa vraie raison d'être, qui était de garder la vision du passé, la vision de l'histoire, la vision de l'homme à tel et tel état de son développement, tout ça a été supprimé par la photographie.
Jean-Jacques Lebel, donc il y a cet accompagnement du ready-made, évidemment très important. Et puis, elle retrouve à New York Varèse et lui fait découvrir le jazz. Le jazz donne la sensation à Varèse d'être une porte ouverte qui va le révéler à lui-même. Ça, c'est Gabriel aussi qui fait cette ouverture d'esprit.
Non seulement ça, mais il ne faut pas oublier un des chefs-d'œuvre de Picabia, la ville de New York vue à travers un corps. Quel corps? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire, c'était la sensation physique que provoquait en Picabia et en Gabriel, qui l'accompagnait. Ils ont vécu ce choc ensemble, au même moment, que tout ça se déroulait dans une Amérique pendant la guerre. Hein. D'abord, 1913, mais ils sont retournés en 1915, en pleine guerre. C'est pas rien. Et le rapport absolument antimilitariste de Picabia date évidemment de cette époque-là. Il était vaguement le chauffeur d'un général, enfin, il tire au flanc. Et Duchamp, lui, a carrément foutu le camp, n'est-ce pas? Ils étaient absolument antinationalistes. Et ça, c'est très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe et aux États-Unis surtout, n'est-ce pas? Ce retour aberrant du nationalisme militariste, on oublie toujours cet aspect-là du mouvement Dada, cet aspect politique, social, éthique du dadaïsme, qu'il faut toujours rappeler, hein, que les gérants du marché de l'art veulent nous faire oublier. C'est fondamental. Fondamental. C'est pour ça que le rapport à Nietzsche et à Stirner est essentiel. En tout cas, par rapport à New York et à la découverte du jazz, c'est évident que le jazz ne pouvait que s'adresser directement à Picabia et à Gabrielle en tant que musicienne. Hein, ça va de soi. L'improvisation, la thématique, cette idée de transformer, comme Bernard le rappelait tout à l'heure, les règles du jeu, de la musique, le chant direct, la transformation de la souffrance en œuvre d'art. Parce que le blues, c'est ça, n'est-ce pas? C'est les esclaves et le rythme des chaînes
des
autour des pieds des esclaves qui donnent le rythme, la scansion du jazz au départ. C'était ça.
Mais c'est vrai que le jazz accomplit une grande partie des théories sur lesquelles Gabriel, Vincent Dindy, Busoni, voilà. Et Varese travaillaient fin 19e, début 20e. Quoi.
Transformer la souffrance physique en œuvre d'art. Et finalement, c'est ce que Picabia a fait toute sa vie, n'est-ce pas? Et très bien.
Et
elle l'a encouragé dans ce sens. Elle a été vraiment... elle a fait partie de son travail intellectuel. Il y a une question qui reste énigmatique, à mes yeux en tout cas, c'est quel rôle elle a joué, elle, dans les titres que Picabia a donné à ses œuvres.
Que Picabia ou que Dada. Ah, que Picabia a donné à ses œuvres. Oui.
Ce titre Unni, extraordinaire.
Bon, Unni, c'est sans doute une dimension, mais je pense que... Il utilisait les pages roses du dictionnaire. Hein.
Louis Lézard comme méthode.
Ça, bien sûr.
Comme méthode, oui, ça c'est formidable.
Est-ce qu'elle n'a pas joué encore un rôle d'incitation là-dedans?
Peut-être.
Ça me semble assez évident.
En tout cas, il faut analyser. Oui. Il va falloir étudier cette affaire.
Oui. Je voulais vous parler d'un autre personnage qui apparaît, il y a beaucoup d'autres personnages qui apparaissent dans sa vie. Et l'un d'entre eux, c'est Harpe. Et je voudrais vous dire en un mot, deux mots que dit Harpe sur Gabriel, que je trouve formidable. Il dit... Il dit ceci. Gabriel est un roi, Gabriel est une reine, Gabriel est une tour, jamais elle ne fut un échec. Elle n'aime pas les mots d'ordre, elle évite les feufolets, elle aime l'envoûtement, elle est vive.
Ça lui ressemble beaucoup.
Et ça ressemble à Harpe, et ça lui ressemble, et c'était extraordinaire. Et donc, dans la vie de Gabriel, après Picabia, la séparation avec Picabia, il y a aussi Stravinsky qui a été important.
Ouais. Ils ont eu le sacre du printemps, la crasse du tympan.
Mais elle a fait jouer à Paris le petit soldat, je crois, et elle a vécu quelques...
Oui, peut-être une histoire d'amour.
Une histoire d'amour entre eux.
Ouais. Ce qui, dans le livre, est un petit peu souligné, même si c'est pas comme vous l'avez dit, hein, c'est un récit, c'est pas une biographie, mais c'est... Donc ça entremêle des... Mais les choses sont souvent très très justes, et donc on suppose qu'il y a une belle histoire entre Stravinsky et Gabriel.
Oui. Alors comme il n'y a
c'était
pas...
C'était une femme libre, autrement dit, n'est-ce pas ?
Libre et d'une curiosité et d'une richesse qu'elle partageait. Ouais. Je voudrais qu'on écoute un dernier passage de ce livre Gabriel, en forme d'épilogue, et ensuite je voudrais, cher Jean-Jacques, que vous ajoutiez quelque chose.
À partir de 1919, Gabriel ne vivra plus jamais avec Picabia. Même si ce couple insolite ne se désunira jamais. Ils continueront de se fréquenter et s'écriront avec assiduité, plusieurs lettres par semaine. Francis continuera d'envoyer des poèmes d'amour à Gabriel, des poèmes fous et magnifiques. En les lisant, on imagine le vieux Francis échappé à la vigilance de sa nouvelle et jeune femme jalouse de la reine Gaby. Entre eux, le dialogue sera impossible à rompre, jusqu'à ce qu'un des deux parte. Le premier sera Picabia. Il meurt le 30 novembre 1953, dans l'appartement de la rue des Petits Champs où il était né. En apprenant sa mort, Marcel Duchamp lui envoie ce télégramme depuis New York. À bientôt, cher Francis. C'est un drôle de sentiment de la laisser là, Gabrielle, en 1919. Elle n'a même pas encore vécu la moitié de sa vie. Et les années à venir ne dépareront pas la destinée aventureuse et hors norme de cette femme. Elle retournera à New York, où elle vivra enfin une relation amoureuse exclusive avec Marcel Duchamp. Elle aidera Elsa Schiaparelli à devenir styliste à Paris. Elle se liera intensément à Calder, Harpe, Brancusi. Elle vivra avec le compositeur Igor Stravinsky, qui l'avait ébloui. En 1939, elle s'engagera aux côtés de l'écrivain Samuel Beckett dans le réseau de résistance Gloria SMH. C'est Gabrielle aussi qui aidera la femme de son fils Vicente, Myriam Rabinovitch, notre grand-mère, à se cacher pour échapper à la déportation.
Très ému de croiser dans cette émission sur France Culture la vie de ce personnage éblouissant qui a traversé tant de vies autres et de personnalités qu'elle a enrichies par sa présence. Et c'est très bouleversant, je trouve, d'entendre la qualité permanente de son engagement. Jean-Jacques Lebel, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, lorsque j'ai connu Gabrielle dans les années 50, c'est elle qui a organisé et incité le musée Cantini de Marseille de faire la première grande exposition muséale de Picabia dans l'après-guerre. Elle l'a fait grâce à son amitié qu'elle avait gardée vive avec Gaston Defer, qui était le maire de Marseille, et qui était un des organisateurs avec elle de ce fameux réseau de résistance. Il faut quand même le dire et le redire, que le courage physique de Gabrielle, dont elle a fait preuve pendant la résistance, alors que Picabia, lui, était parti en Algérie, et que d'autres étaient partis aux États-Unis, et que, bon, elle est restée, et elle a combattu dans les rangs de la résistance, alors qu'elle n'était pas plus tellement jeune, n'est-ce pas? C'est cette Gabrielle-là que j'ai connue, rieuse, extrêmement fine et hyper intelligente. Un grand, grand personnage de la pensée moderne.
Merci beaucoup Jean-Jacques Lebel. Merci beaucoup Bernard Marcadet. C'était très émouvant de vous entendre tous les deux parler de ce moment fabuleux d'invention qu'a été ce début du siècle, avec ces personnages immenses croisés par une personnalité très discrète et très intense et très présente dans cette invention. Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons reçu Bernard Marcadet et Jean-Jacques Lebel pour parler de ce livre publié par Stock, Gabrielle, écrit par Anne et Claire Berest et qui raconte la vie merveilleuse, extraordinaire, exemplaire, importante de Gabrielle Buffet-Picabia. Lecture des textes, la belle voix de Lara Brulle. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Sylvia Favre, prise de son Jean-Michel Bernaud, réalisation Franck Lilin. Et dans quelques instants, Personnage en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.